Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste ? C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez 20 milieux sous ma chair, dans le cœur sur la table.
Salut, c'est Thomas Rozek. Quand j'étais ado, au carrefour des années 2000-2001, une bonne partie de mon temps libre était occupée sans grande originalité par l'ordinateur familial, et plus précisément par un jeu vidéo auquel j'ai consacré un nombre d'heures que je préfère éviter de calculer, les Sims. C'était devenu une véritable obsession, collective d'ailleurs, puisque nous étions quelques-uns, garçons et filles dans mon entourage, à dédier énormément d'énergie à bâtir et à entretenir nos petits univers virtuels dont nous parlions avec passion. En février 2020, les Sims ont fêté leurs 20 ans, et contrairement à bien des modes passés, leur héritage culturel a survécu, leur communauté est toujours vivace et ils ont essaimé bien au-delà des premiers utilisateurs. Alors pourquoi est-ce qu'il est aussi culte, ce jeu ? Qu'est-ce qui, dans son histoire, dans sa conception, dans sa diffusion, lui a donné cette place à part ? C'est ce qu'on va tenter de comprendre avec notre épisode du jour. Bienvenue dans Programme B. Et cette compréhension, elle sera facilitée par le fait que notre invité est un des spécialistes incontestés des Sims, Lou Lassina-Foubert. Il est social media manager chez West France, il est aussi journaliste pour Gamekult et animateur du podcast La Cartouche. On a commencé notre discussion tant qu'à faire par les débuts, à savoir comment ça a démarré les Sims.
Au tout début, du coup, les Sims, c'est un projet de Rewrite, un projet de longue haleine. Alors, Rewrite, c'est le créateur, le cofondateur du studio de développement Maxis, qui est à l'origine du jeu Les Sims. Mais ce monsieur Wright est aussi à l'origine du coup de grandes licences comme SimCity par exemple. Il a aussi fait des projets un peu plus expérimentaux comme SimAnt où tu devais gérer du coup une fourmilière ou SimEarth, un jeu de gestion de simulation d'écosystèmes terrestres, donc très intéressant. Donc c'est vraiment un génie un peu touche-à-tout qui aime la simulation assez pointue quand même.
Sim Safari, Sim Park, Sim Isle et encore plus loin, Sim Ants, un jeu de gestion de fourmis. Et c'est sorti sur Super NES. En soi, après, je suis sûr que ça correspond assez bien à la vie d'une fourmi. Mais je vous avoue que ramasser des petits pois pendant 2h30, ça peut en lasser certains.
Et ce Monsieur Wright a perdu sa maison en fait dans un incendie vers les années, au début des années 90. Et il voulait, il s'est dit, tiens, ça aurait été super sympa quand même de pouvoir reproduire ma maison à l'identique si j'avais pu l'enregistrer de manière numérique, genre ça aurait été quand même pratique de savoir exactement comme elle était et pouvoir en fait faire un copier-coller, on peut dire. Et de là, il s'est dit, j'ai envie de faire un projet de jeu vidéo où l'objectif, en fait, ce serait finalement d'aménager une maison. Et ça, c'est déjà dès le début des années 90. Je rappelle que les Sims est sorti en 2000, donc il y a eu 10 ans de maturation.
Pourquoi ça a pris autant de temps ?
Alors, ça a pris beaucoup de temps, tout simplement parce qu'il n'y avait pas grand monde qui croyait au projet. Il avait vraiment une vision très austère.
Ouais.
L'objectif était finalement d'attribuer des points aux joueurs, un score en fonction de la façon dont tu aménages ta maison et si les habitants sont heureux, si ta maison est bien aménagée, tout ça. Il avait un parti pris en fait très architecture, très voilà, c'est un homme qui aime la gestion, donc il y avait un côté gestion très 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 fort. Et personne n'y croyait. Vraiment, c'était terrible. Des clichés assez sexistes aussi. Hein. Le jeu vidéo était réservé plutôt aux garçons, on disait. Et là, c'était une maison de poupées virtuelle. En gros, ça n'allait intéresser personne. Et finalement, on l'a quand même trouvé assez sympathique dans son idée. Et puis, c'était en plein, en fait, au pinacle du succès des Sims, de SimCity, pardon. Donc, la licence Sim quelque chose, elle cartonnait. EA, qui venait de racheter Maxis, s'est dit... on va pouvoir capitaliser un petit peu sur la licence et on verra ce que ça donne. Finalement, en continuant le développement, il s'est rendu compte que l'aspect social, les petits personnages, eh ben, y avait quelque chose, en fait, au niveau de l'aspect social du jeu. Et c'est comme ça qu'en fait, le pivot s'est effectué. Le projet a véritablement pivoté, finalement, de l'architecture, qui est toujours présente dans le jeu final. Mais les véritables stars, c'est dans le titre, ce sont les Sims. Et c'est eux qui font vraiment tout le piment du jeu, parce que ce sont des êtres virtuels qui sont un petit peu imprévisibles. Ils ont des comportements parfois surprenants. Et c'est comme des animaux virtuels, en fait, finalement. Et c'est vraiment en se rendant compte de ça qu'il a axé, en fait, le développement sur ces personnages.
Well, I'd always been fascinated with architecture. And it turns out that architecture has a lot in common with city planning. A lot of the same issues happen at a micro scale. Most people don't even perceive it. So your typical house actually has traffic patterns. It has land use. And a lot of things that a city does, a lot of the same dynamics, but it's something that you experience every day and you're very intimate with, and so it almost disappears and becomes invisible to you. So I wanted to do a game about architecture, showing all the strategic forethought that goes into building a house. From that, as I delved into it, I started realizing that a major component of that had to be the people that would live in the house, that would actually be the test. They would score the house for you.
Quand le jeu sort en février 2000, comment est-ce qu'il est reçu? Est-ce qu'il est attendu? Est-ce que c'est une surprise? Est-ce qu'il est regardé avec curiosité par le public?
Alors, il y a une petite anecdote assez intéressante, je trouve, à raconter. C'est que le jeu passait relativement inaperçu, même auprès de la presse, avant sa sortie. À l'E3 1999, du coup, il est présenté un petit peu en marge du salon d'IA. Il s'est passé une petite chose, c'est une chose imprévu, encore une fois. Je parlais de l'imprévisibilité des Sims. Là, on est en plein dedans. Il y avait trois séquences qui étaient présentées, en fait, aux journalistes, dont une séquence de mariage entre un homme et une femme. Et pendant cette séquence, il y a deux personnages, deux femmes qui se sont embrassées, en fait. Donc, on est à la fin des années 90. Le mariage homosexuel n'est autorisé dans aucun pays au monde. L'adoption, j'en parle même pas. Donc, c'était vraiment une autre époque, finalement, qu'aujourd'hui. Et ce petit événement, bah, il a fait parler de lui, en fait. Il a rendu curieux envers le jeu en se disant, hey, c'est un jeu plutôt ouvert, c'est incroyable. En sachant qu'en fait, la décision en interne avait été prise de ne pas inclure les relations pour les personnes de même sexe. Mais finalement, suite à un concours de circonstances, notamment à l'absence, en fait, d'un des boss, il y a un ancien projet qui a été donné à la personne qui était chargée de travailler sur la démo. Et dans ce projet, les relations entre personnes de même sexe étaient autorisées. Donc, c'est un petit coup de bol, en fait, finalement, parce que ça a lancé la communication autour du jeu. Après, le jeu, lui, il est sorti dans une relative, on va dire, indifférence, dans le sens où, enfin, une curiosité. Parce que quand même, c'est un jeu de la licence Sim quelque chose, qui représentait vraiment quelque chose. À l'époque, SimCity est vraiment très, très fort. On a du mal à imaginer aujourd'hui le poids que ça peut représenter, parce que quand on pense à Sim, on pense évidemment aux Sims. SimCity et toutes les anciennes licences ont complètement disparu. Mais voilà, c'est un jeu d'un genre nouveau. Donc, c'est extrêmement difficile, en fait, à vendre, parce que pour les joueurs, déjà, expliquer un nouveau concept, et surtout un concept aussi proche, enfin le but, c'est de faire vivre des personnages, une vie, le quotidien. Donc, c'est assez particulier. C'est un jeu ovni qui, en fait, a fait sa place par le bouche à oreille, par l'expérience des joueurs et par ce côté imprévisible des aventures tout à fait banales et quotidiennes qu'on mène dans ce jeu.
Les gens nous demandent souvent, mais par où je commence? Personnellement, je leur réponds, quelle aventure vous voulez vivre? Et il faut lancer le jeu dans cet état d'esprit. La suite se fera naturellement. Tout est possible.
Comment est-ce que la communauté des fans des Sims s'est construite?
Alors, la communauté s'est fondée surtout autour de la possibilité, en fait, d'ajouter des éléments au jeu. Ça a été, dès le début, dès le tout premier épisode, une possibilité dont les joueurs se sont vraiment emparés. Donc, le modding, aujourd'hui, comme on l'appelle. Il y avait un catalogue qui était assez restreint, en fait, mine de rien. Même quand on ajoute toutes les 7 extensions du premier jeu, au niveau des objets, c'était relativement restreint. Et donc, il y avait plein de joueurs qui s'amusaient à développer des nouvelles tables, des nouvelles chaises, plein de choses, plein de décorations en plus coordonnées. Hein. L'idée était de faire vraiment des cuisines tout équipées, tout ça, plein d'objets. Et ça a été des forums d'échange, etc. Donc ça, d'une part, ça a été vraiment très vivace. Et d'autre part, c'est un jeu où on est très libre, en fait, finalement. On n'a pas beaucoup de challenge, mais on a beaucoup de liberté. Et ben, les joueurs, ils prennent le contre-pied et ils s'imposent eux-mêmes des challenges. Ça s'est largement développé, surtout après les Sims 2, là où le vieillissement, en fait, est apparu, le vieillissement et la mortalité, on pouvait créer des dynasties. Et ben voilà, il y a des challenges, on part de rien, on fait une dynastie la plus riche, ou alors l'objectif, ben, c'est de vivre dans le plus grand dénuement. Voilà, il y a plein d'objectifs différents. Et on se fait des challenges. Dans les derniers, par exemple, c'est on crée un sim extrêmement moche, et on fait tout pour l'embellir à la fin, un peu mode chirurgie esthétique. C'est un challenge qui ne se base vraiment que sur l'éditeur d'avatar. Donc finalement, on prend un morceau du jeu et on en fait quelque chose de nouveau avec toute la liberté qu'on nous permet. On se crée nous-mêmes nos propres challenges et tous ces joueurs s'inscrivent dans cette continuité.
Dans mon souvenir, moi, l'une des clés du succès, en tout cas du premier épisode, c'était le nombre de choses cachées qu'il y avait à découvrir et notamment les codes qu'on se refilait un peu sous le manteau pour accéder à d'autres choses dans les Sims.
Alors oui, c'est vrai qu'il y a toujours une foule de codes pour faciliter un petit peu la vie du joueur. Le plus connu étant Rosebud, mais avant Rosebud, c'était Clapotius. Donc voilà, plein de petits codes pour gagner plein d'argent, pour maximiser les besoins, en fait, pour contourner le système de jeu, pour se concentrer justement sur la liberté que permet ces aventures. Et puis chaque extension apportait par exemple une créature différente. Hein, on avait des vampires par exemple dans les Sims 2, on a l'abominable homme des neiges, on a des fantômes, on a voilà, plein de créatures un petit peu amusantes à croiser. Parfois on peut même les inviter dans le foyer, on peut les épouser, on peut avoir des enfants avec.
Donnez une forme sombre à vos créations. Avec ces nouvelles options, transformez vos Sims en vampires séduisants ou vraiment terrifiants. Construisez-leur une maison à Forgotten Hollow et utilisez des pouvoirs surnaturels.
Donc c'est toujours des petites choses amusantes, même dans les objets, dans les façons d'utiliser les objets. Il y a une centaine d'objets dans les premières extensions, par exemple, enfin même 50 au début, après ça arrive à 100 dans les premières extensions du premier jeu. Mais le temps de tester tous les objets, toutes les possibilités qui sont très fantasques, par exemple, il y a un hamster qui arrive dans les premières extensions du premier Sims, qui, si on le nourrit mal, donne une maladie finalement au Sim qui va le tuer. Il y a un portrait de clown qui est très moche, mais qui invoque finalement un clown qui va déprimer le Sim. Donc c'est plein de choses en fait incongrues qui viennent pimenter le quotidien. C'est pas pour rien que la première extension s'appelle « Ça vous change la vie ». Donc l'idée c'était vraiment, voilà, on va changer un petit peu le quotidien. Et après on part en vacances, après on fait de la magie. C'est à chaque fois des nouvelles histoires en fait à raconter. Dans cette façon dont les Sims interagissent avec les objets. Et finalement, les Sims, c'est simplement un avatar pour le joueur. C'est aussi la façon dont nous, on va vouloir interagir, on va vouloir raconter nos histoires, comment on s'inscrit finalement dans cette façon de raconter des histoires.
Est-ce que l'une des clés du succès aussi des Sims, dans la temporalité dans laquelle il s'est inscrit, finalement, sa chance, c'est d'avoir accompagné l'émergence, puis l'éclatement total du web social, les réseaux sociaux.
La puissance des réseaux sociaux a été prise en compte très rapidement dans les Sims. C'est-à-dire qu'on a intégré en fait des fonctionnalités sociales dès les Sims 3, par exemple. Donc, il y avait des bourses d'échange, des moyens de s'envoyer des messages, des cadeaux, etc. Des petits succès aussi. Hein, le principe des succès qui, lui, est du côté un peu plus gamer. Et même les Sims eux-mêmes, d'ailleurs, peuvent faire carrière dans les réseaux sociaux. Ils ont leurs propres réseaux sociaux, Simstagram, ils se font des selfies, tout ça. Enfin, cette composante sociale a été prise en compte déjà dans le jeu. Et puis, il y avait tous les forums, bien sûr. Encore aujourd'hui, même si les forums sont beaucoup moins importants de manière générale sur Internet, les forums sur les Sims sont très vivaces. C'est une communauté qui est très, très investie et qui est d'ailleurs très bienveillante. Je pense que c'est aussi une des clés du succès, c'est que c'est un jeu qui est extrêmement bienveillant avec une communauté qui l'est tout autant. Et du coup, voilà, les forums sont toujours très vivants et ça fait véritablement partie du jeu. Aujourd'hui, on a une galerie dans les Sims 4 qui permet d'échanger les maisons qu'on a construites, les familles. Si on refait des célébrités, voilà, tiens, j'ai refait Britney Spears, Beyoncé, etc. Je la mets en téléchargement, les gens peuvent la télécharger. Et voilà, ça fait partie en fait de toute cette vie qu'il y a autour des Sims, si bien que même les personnages présentés dans les trailers sont proposés au téléchargement pour les joueurs. Donc il y a véritablement un écosystème qui se crée, un univers global qui se crée avec des échanges perpétuels entre joueurs et studios de développement aussi. Il faut savoir en fait de base que tous les Sims sont pansexuels, c'est-à-dire qu'ils peuvent potentiellement être attirés par n'importe quel autre Sim, qu'importe son sexe. Donc un Sim homme pourra être en couple aussi bien qu'une femme qu'avec un homme, passer de l'un à l'autre indifféremment et il aura les mêmes sentiments. La question du mariage homosexuel a été abordée dans les Sims avant qu'elle soit abordée dans le monde et avant même qu'elle soit aussi questionnée aux États-Unis, d'où a émergé le jeu, y compris pour l'adoption. Donc il y a quand même une volonté d'être très en avance. Tu as aussi la question de la transidentité qui est complètement intégrée dans les Sims 4. On peut créer une personne de sexe masculin qui peut tomber enceinte et vice-versa, une personne de sexe féminin qui peut rendre un autre Sims enceinte. Et hommes et femmes peuvent porter indifféremment des tenues d'hommes et de femmes. Donc ces notions sont vraiment traitées de manière très progressiste par les développeurs, mais aussi des questions sociales plus générales, on va dire, sur la question de la mort. La mort fait partie des Sims depuis la création, et c'est traité avec beaucoup d'humour aussi, parce que voilà, on invente des nouvelles morts à chaque fois, et puis c'est jamais tragique dans les Sims, parce que déjà on est visité par la faucheuse, qui est une espèce de personnage de cartoon que n'aurait pas renié quelque part Terry Pratchett.
Mais quoi ? Oh,
puis on croise ensuite le fantôme de ces Sims, donc ils font un petit peu toujours partie de la famille, on peut même les réintégrer après pour l'anecdote. Et puis les Sims peuvent faire des choses un peu moins recommandables, ils peuvent être infidèles, ils peuvent être des pickpockets, ils peuvent se battre, mais là aussi avec une version un peu cartoon finalement. Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de violence véritablement choquante, ça va être des claques un peu à la cartoon, c'est une volée de claques avec un bruitage un peu amusant. Cette composante quand même de faire rire à partir du quotidien est tout de même prépondérante. Donc on va pas choquer, on va pas dramatiser. Les Sims peuvent être malheureux, ils ont des deuils, ils sont tristes après un deuil, ils pleurent, ils se réfugient sous la couette. Mais c'est jamais trop, l'emphase n'est jamais trop mise pour que le, bah disons pour pas que ça crée de malaise en fait, pour pas que ça soit un jeu plombant finalement. Et ça ils ont plutôt bien réussi. Ils ont aussi limité le nombre de comportements malsain quelque part. Par exemple, on n'a pas d'agression sexuelle dans les Sims. Heureusement, quelque part, parce que ce sont quand même des choses beaucoup trop violentes. On peut se battre, mais ça va être voilà, un combat avec plein de fumée autour, les points qui volent. Enfin, c'est quelque chose de très Looney Tunes, en fait, si on veut. Donc, c'est quand même un monde édulcoré, mais aussi très progressiste, avec toujours cette composante de bienveillance qui est prépondérante.
Est-ce que justement, cette caractéristique, ce progressisme qui est affiché et qui est revendiqué par le jeu, c'est une des raisons de son succès auprès des fans ?
Alors, c'est complètement une raison de son succès. En tout cas, on le voit, les gens qui sont attirés par les Sims, ce sont justement des gens qui généralement aiment cette possibilité d'être tels qu'ils sont. C'est l'objectif des Sims, ça, c'est qu'on peut se créer aussi soi-même tel qu'on se voit, mais aussi tel qu'on veut être, finalement. Donc ça, c'est une part importante. Mais c'est aussi une part d'une certaine défiance de certains États. Je sais qu'en Russie, par exemple, les Sims, c'est un petit peu plus compliqué. Je crois qu'il y a eu des problèmes de censure, des sorties un petit peu complexes, des notions de PEGI. Donc, j'ai pas toute l'histoire en tête, mais je sais que pour les Sims 4, on avait accusé le jeu notamment de faire la promotion de l'homosexualité, donc c'était pas passé en Russie. Donc voilà, mais c'est presque un jeu de posture idéologique en fait, finalement, sans que ce soit vraiment, évidemment, le jeu est jamais vendu comme ça, c'est un jeu où l'objectif c'est que tout le monde puisse se reconnaître. Mais aujourd'hui, les joueurs qui jouent aux Sims, quelque part, ils revendiquent malgré tout quelque chose, c'est ce droit à cette liberté, ce droit d'être qui on veut, ce droit d'être finalement.
Qu'est-ce qu'il en reste des Sims aujourd'hui ? Parce que le dernier épisode les Sims 4 est sorti il y a quelques années maintenant. Est-ce que la communauté existe encore ? Est-ce qu'il y a un avenir pour les Sims ?
Alors la communauté aujourd'hui est plus que jamais vibrante, plus que jamais vivante. Je suis toujours un petit peu fâché avec les Sims, mais je crois qu'ils ont dépassé avec le quatrième épisode les 20 millions de joueurs pour l'épisode 4. Il y a eu un communiqué il y a très peu de temps sur ces chiffres-là. Il y a plus de 30 extensions, je pense, différents types d'extensions, ça va être des kits d'objets un peu plus petits aux gros packs d'extensions qui ajoutent beaucoup de contenu. Donc c'est voilà, 30, peut-être même 40, je sais que c'est assez énorme en tout cas. Il y a tout ça, il y a encore plein de contenus qui sont prévus, aussi en collaboration justement avec les fans, à travers des sondages. Les gens peuvent voter sur ce qu'ils veulent avoir et les développeurs se plient au choix des votes. Le prochain, par exemple, dans le genre, ça va être autour des arts manuels, ça va être la couture. Donc c'est le tricot plus précisément. La communauté est plus que jamais intégrée dans le process. Les Sims 5 sont en développement, ça vient tout juste d'être annoncé. Donc finalement, au bout de 20 ans, ils sont encore très vivants, encore très suivis. Et le nombre d'extensions qui est sorti, ça prouve justement que ça marche bien. Même si au départ, les Sims 4 ont été accueillis assez froidement. Le jeu est sorti, on va dire, aux trois quarts fini. Il manquait quand même beaucoup de choses. Là, ils se sont très très bien rattrapés. Et avec la foule d'extensions qu'il y a, on a un jeu plus que complet aujourd'hui.
Est-ce qu'il y a eu un effet Sims sur le monde du jeu vidéo en général ?
Il y a eu plusieurs tentatives, côté jeu vidéo à proprement parler, véritablement jeu vidéo, de copier les Sims. Je pense que l'une des plus connues, c'est Singles, qui, elle, se basait justement sur tout ce que les Sims ne vous montrent pas, c'est-à-dire notamment des sexes et du sexe, même si c'était relativement édulcoré. On va dire ça tient plus de l'érotisme au final que de la pornographie. Donc il y a eu cet essai-là, mais qui s'est pas transformé parce qu'en termes de gameplay, ça suivait pas tout simplement. Mais les Sims, ça fait partie des jeux concept qui sont véritablement hégémoniques. C'est pas le seul, hein. On pense à Civilization par exemple, qui est à peu près le seul 4X au tour par tour historique.
We rise to the challenge and become something greater than ourselves. A civilization.
Mais voilà, il y a des jeux comme ça, effectivement, on trouve qu'un seul représentant au final. Est-ce que ça a influencé l'industrie du coup ? Ben, dans un sens, pas vraiment, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres expériences du genre, mais aussi parce qu'il y a. Est-ce qu'il y a une place finalement pour un concurrent des Sims ? Est-ce qu'on peut faire face à un rouleau compresseur de production, de quantité de contenu comme ça, c'est extrêmement difficile aujourd'hui de se placer sur le créneau, à moins d'y aller vraiment de manière complètement transversale. Je pense par exemple à Animal Crossing, en fait, finalement, qui est une sorte de simulation de vie, mais avec une vision très différente. On n'est pas du tout dans la gestion du quotidien, on va être plutôt dans une vie onirique, un petit peu de fantaisie avec des animaux qui parlent, tout ça. Donc on est sur quelque chose de beaucoup plus fantasque au final. Donc c'est difficile de voir s'il y a une... ça dépend ce qu'on voit derrière influence, en fait, finalement. Est-ce qu'il y a une influence culturelle ? Ça, c'est indéniable. Je pense que beaucoup de gens connaissent les Sims. Ça me paraît assez évident. Est-ce que pour autant, il y a encore beaucoup de gens qui sont prêts à y rejouer aujourd'hui ? Je sais pas. Je pense qu'en fait... Ce qu'il faudra observer, ça va être la sortie des Sims 5. Si les Sims 5 cartonnent, ça veut dire que les Sims 4 ont vraiment réussi à redresser la barre après un démarrage assez compliqué. On sait que là, la communauté, elle est vraiment étoffée maintenant, mais c'est sur une fanbase qui est très investie, qui est vraiment autour de joueurs très acquis à la cause. En fait, finalement, là où les Sims 2 s'étaient vraiment imposés sur un public beaucoup plus large, au final. Et je suis pas sûr qu'à nouveau, les Sims puissent rencontrer ce public aussi large, même avec un cinquième épisode. À voir comment ils vont dépoussiérer finalement l'essence de la licence.
Par ailleurs, il y a un autre élément de l'univers des Sims qui, à lui tout seul, est un objet de fascination, c'est leur langage, le Simlish, une langue totalement inventée, quasi intraduisible, à laquelle le site américain The Verge a consacré tout récemment une longue enquête assez passionnante que je vous invite à lire. Merci à Lou Lassina-Foubert pour ses réponses. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Adèle Italel-Madani. Abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes, Facebook et Twitter pour nous parler, et à demain pour un nouvel épisode.
Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. En 2016, je suis monté sur un bateau de sauvetage en Méditerranée et ce que j'y ai vu n'a pas changé. En tout, depuis 10 ans, on compte même près de 30 000 morts sur cette mer. Alors dans le naufrage, notre nouvelle enquête, j'ai voulu raconter un cas concret. Comment 130 personnes sont mortes en 2021 à la frontière de l'Europe, malgré des dizaines d'appels de détresse. Qui n'a pas pu les sauver et pourquoi ? Qui étaient ces disparus ? Et surtout, comment on en est arrivé à ne plus parler de 130 personnes qui meurent le même jour sur un bateau au milieu de la Méditerranée ? Le Naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradiso Média. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.